Chapitre 6.
La rentrée des classes fut une période agitée. Jusque-là, le père avait réussi à cacher ses préoccupations à sa famille. Il s'absentait souvent et disait rarement quand il allait revenir. On savait que les Allemands allaient envahir le nord de la France. Mais les conséquences les plus tangibles, pour les habitants de Beaucèdre, était le rationnement. Maman détestait faire la queue chez les commerçants. Elle déléguait cette corvée à Agathe, pour qui attendre chez la crémière était l'occasion de faire admirer sa cascade de cheveux blonds par les ménagères du quartier. Elle casait tant bien que mal le petit bidon en fer au fond de son cartable, puis, après l'école, elle s'installait dans la queue et écoutait les commérages. Madame Boffa, la crémière, avait deux jumelles qui étaient dans sa classe. Dès la sortie, les deux fillettes se précipitaient au magasin pour aider leurs parents. Chapitrées par ces derniers, elles s'appliquaient à verser dans le petit bidon toujours un peu moins que le contingent octroyé. Agathe veillait au grain et ne se privait pas d'exiger son dû. Mais elle ne pouvait rien faire contre le fait que le lait était illégalement allongé d'eau par les crémiers.
« On le voit à la couleur, il est de plus en plus bleu !»
rageait Paulette. Mais maman ne se résolvait pas à acheter au marché noir les produits frais et crémeux que proposait Madame Boffa à ceux qui, sans scrupule, étaient devenus sa clientèle privilégiée. Pour son premier jour d'école, Lucie était vêtue de sa robe écossaise. Maman avait relevé ses cheveux avec une barrette dans laquelle elle avait glissé un petit nœud assorti, coupé dans le même tissu. Quelle mauvaise idée elle avait eue! Sur les conseils d'Agathe, Paulette, qui coiffait souvent la petite, avait pris l'habitude de laisser bouffer sur son front une grosse mèche qui masquait presque complètement l'œil divergent. Cette astucieuse protection, si elle donnait un air un peu étrange à la petite fille, lui épargnait les réflexions parfois maladroites des amis de sa mère. Et si l'une d'entre elles se hasardait à relever, d'une main curieuse, l'écran de cheveux protecteur, Lucie, qui avait senti venir le geste avant même qu'il fût esquissé, se hâtait de mettre en place la mise en scène qui avait tellement affolé ses parents le jour de ses 4 ans. Les amies bien intentionnées reculaient alors, comme si elles avaient vu le diable, ce qui faisait s'esclaffer les deux sœurs. Mais ce matin-là, ni l'une ni l'autre n'avaient le cœur à rire. La petite n'avait rien osé dire à maman, mais elle avait l'impression d'être toute nue, avec son front déshabillé. Au moment de la séparation, elle s'agrippa à sa main, s'imaginant qu'elle ne pourrait qu'en mourir. Plus son anxiété s'amplifiait, plus son œil roulait sur lui-même, dans une danse incontrôlable. À la récréation, comme elle continuait à pleurnicher, un petit groupe d'enfants se forma autour d'elle. La plus grande d'entre eux l'accosta avec un fort accent du midi.
« Dis donc quoi tes yeux qui s'agitent comme des pruneaux secoués par le mistral ?»
La malice aidant, elle se mit à fredonner doucement, puis de plus en plus fort.
« Elle est bigleuse ! Elle est bigleuse !»
Utilisant les mêmes notes répétitives que l'air bien connu, elle a gagné, elle a gagné. Il n'en fallait pas plus pour que le groupe tout entier se mette à répéter à l'unisson, en séparant bien les deux syllabes. À l'autre bout de la cour, Agathe fut alertée par les sanglots de sa sœur, qu'elle aurait reconnus entre 1000. Abandonnant ses jeux, elle fonça sur le groupe. Salmôme, « vous ne savez donc pas qu'elle ne voit pas d'un œil ? C'est pour ça qu'elle louche. Je vous y verrai, vous !» dit-elle menaçante. Elle s'accroupit près de Lucie et, du coin de son tablier, essuya le ruisselet de morve qui coulait sur la joue de la petite, tout en la consolant. Mais ses paroles ne firent qu'attiser la méchanceté de la grande, qui s'exclama en sautillant autour d'elle. « Louchette, mouchette, louchette, mouchette !» Agathe se redressa d'un bond, fit un croc en jambe à la gamine, qui fit un vol plané et alla s'écraser sur le ciment de la cour. « Tu sauras que je suis la seule personne au monde qui a le droit d'appeler ma sœur Louchette. Mets-toi bien ça dans ta tête, morveuse. » Puis, dignement, elle prit la main de Lucie et la ramena à sa maîtresse. Lorsqu'elle eut regagné son pupitre, la petite réalisa sa première œuvre d'artiste. Un dessin étrange qui plongea tous ceux qui le virent dans l'étonnement. Les élèves devaient reproduire les voyelles joliment préparées sur le papier quadrillé. Au lieu de suivre le modèle, Lucie l'avait déformé des centaines de fois. Chaque « i » devenait une tige velue, comme recouverte d'un léger duvet, répété à l'infini. Elle les avait coloriés soigneusement, mêlant des bleus et des violines, les courbant paresseusement sous des coques mauves pâles, semblables à des chapeaux de couperin. Sur la page suivante, les A recouvraient toute la surface blanche de la feuille. Comme des pyramides minuscules, tous ces petits triangles, légèrement renflés à leur base, étaient striés de fines lamelles colorées d'orange et de bistre, et se pressaient frileusement les uns contre les autres. Le soir, les fillettes se gardèrent de raconter à leurs parents la mésaventure de la récré. Agathe montra son travail de la journée. Sous les additions et les soustractions, figurait le dessin de deux drapeaux tricolores entrecroisés dans un X plutôt fatigué, et la nouvelle devise imposée par le maréchal Pétain. Travail, famille, patrie. Sans un mot pour ces marques de patriotisme imposées, le père félicita sa fille aînée d'avoir effectué correctement les opérations de calcul. Il contempla ensuite les deux feuilles que Lucie lui tendait sans un mot. « C'est beau comme un tableau abstrait, » dit-il à maman. Chapitre 7. Germaine, c'était le nom de la morveuse, n'avait pas dit son dernier mot. Elle alerta son grand frère, un costaud au nez épaté, qui se pointa dans la cour des petites. La riposte au croc en jambe ne se fit pas attendre. Le gros René coinça Lucie contre un platane et lui chuchota insidieusement dans l'oreille « Tu sais que tu es borgne. Plus tard, tu auras un bandeau noir sur l'œil comme les pirates. » Et on t'enfermera avec les cyclopes, dans leur caverne, affirma-t-il dans un fielleux amalgame, tout heureux d'étaler un savoir récent, pompé dans une lecture édulcorée d'Homère. Lucie connaissait les pirates. Lino avait apporté un jour un livre où un homme avec une jambe de bois et un foulard rouge autour du cou assaillait un superbe galion et y découvrait des tas de pièces d'or. Mais les mots cyclopes et « borgne » lui était inconnu et bourdonnait sans relâche dans sa tête. Le deuxième était banni du vocabulaire de Beaucèdre. Aussi, quand au dîner, après avoir réclamé exprès « S'il te plaît, maman, encore de la soupe, juste une louchette », elle ajouta d'une voix claire « Qu'est-ce que ça veut dire être borgne ?» Toute la famille se regarda, catastrophée. Maman, qui redoutait le moment où le regard de Lucie devenait inhabité, bredouilla lâchement. « Rien du tout, ma chérie. C'est un mot qui ne veut rien dire. C'est un mot pour les grands, ça ne te regarde pas. » Mais la petite ne désarma pas. Le lendemain, après l'école, elle partit à la recherche d'Agathe pour élucider le mystère de ce mot si terrible. Or, sa sœur, ces jours-là, avait tendance à disparaître sans dire où elle allait. Lucie commença par sous le cèdre, continua par la mare où Lino pêchait des têtards, poursuivit sa recherche en dessous où bonne maman somnolait sur sa chaise longue, poussa enfin jusqu'au fond du grand pré. Agathe n'était nulle part. Elle eut alors l'idée de questionner Paulette, mais la cuisine était vide. Soudain, elle fut prise par des éclats de voix qui venaient de l'étendage. L'endroit était herbeux et ensoleillé. On y avait fiché quelques piquets et aligné des rangées de cordes. C'était le royaume de la jeune cuisinière qui venait y suspendre le linge et prendre le soleil quand elle avait fini la vaisselle. Assise derrière les draps humides, bravant les interdits, Agathe et Paulette tricotaient. Leurs aiguilles cliquetaient au rythme de leurs rires étouffés. Celle de sa sœur, hésitante et maladroite, celle de la petite bonne, follement rapide, comme les arpèges sous les doigts de maman au piano. En les voyant, Lucie fut prise de l'envie irrésistible de jouer avec les aiguilles brillantes, de tenir le fil vert et épais entre ses doigts, et de l'enrouler soigneusement autour des tiges pointues, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pour voir naître le tricot et les lignes ondulées. Prise en faute, les deux coupables cachèrent promptement leur ouvrage et la dévisagèrent innocemment. « Que veux-tu, Louchette ?» La petite demanda. « Je peux tricoter, moi aussi ?»
N'allez surtout pas croire que le conte de la Belle au bois dormant allait se reproduire. Sinon, on en aurait encore pour 100 ans avec cette histoire.
Ni Paulette ni Agathe ne cédèrent leurs aiguilles. À contre-cœur, la seconde accepta de lui donner l'explication recherchée. « Borgne, ça veut dire qui ne voit que d'un seul œil. Mais ça, Louchette, tu le sais déjà. Ça n'a rien de nouveau. » dit gentiment Agathe sans lâcher son tricot. Chapitre 8. Elle le savait, mais elle ne l'avait pas réalisé. Le mot odieusement prononcé par René avait comme authentifié ce qu'elle devinait sans comprendre, pressentait sans l'appréhender complètement. Borgne, un mot gifle, trop court, hargneux, menaçant, hostile. Elle le répétait en fronçant les sourcils, le hurlait parmi les acanthes, sachant que personne ne l'entendait. « Je suis borgne !» Et le mot s'étalait comme une lèpre sur les larges feuilles vertes, rampait parmi les hampes pointues qui s'inclinaient sous le léger mistral comme des pleureuses voilées dans une tragédie grecque, répétant en écho « Borgne, 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 borgne !» En sanglotant, elle refaisait le geste 20 fois répété depuis la scène avec Agathe, recomptant ses deux yeux avec son index et, comme aucune clarté ne venait éclairer le côté gauche de son visage, il lui semblait inerte, absent, mort. En abaissant son regard, elle voyait le duvet de sa joue droite, l'aile du nez, si proche qu'elle en devenait floue. En tortillant sa bouche en une grosse moue, elle apercevait le côté droit de ses lèvres épaisses, comme le chapeau d'une girole. Mais l'autre restait dans l'ombre, comme un étranger. Et même si la paupière gauche suivait docilement les mouvements de sa jumelle de droite, elle ne protégeait rien que le vide. Une fausse prunelle mise là pour faire croire à une symétrie, mais qui était factice et mensongère. Comme Lina s'approchait d'elle et lui tendait sa dernière proie, une minuscule grenouille dont le goitre doré battait d'affolement, Lucie lui demanda « Comment c'est de voir avec deux yeux ?» « Est-ce que tu vois deux fois les mêmes choses ?» Il répondit en riant. « Oui, je vois deux filles, Agathe et toi. » Car sa sœur venait d'arriver pour le mettre au courant de la méchanceté de René. Les trois enfants décidèrent de préparer une vengeance à la hauteur du forfait. Agathe voulait en savoir plus sur le fameux cyclope. Il fallait commencer par là. Les jours suivants, les deux grands lurent, à haute voix et à tour de rôle, les péripéties du voyage d'Ulysse dans le livre illustré que le père avait prêté à sa fille. De Cicone en l'autophage, d'Ithaque à Tinacrie, les enfants devinrent les compagnons du héros grec. Agathe affectionnait particulièrement Pénélope, l'épouse du roi d'Ithaque, qui collectionnait les prétendants et qu'elle imiterait plus tard. Les aventures d'Ulysse éveillaient en Lino des sentiments contradictoires. Il se voyait bien affronter les tempêtes soulevées par Poséidon, apaiser les vents contraires déchaînés par Éole, échapper aux tourbillons du rocher de Charybde et aux griffes de Scylla, le monstre à tête de chien. Mais il ne voyait pas l'intérêt de rester 7 ans dans une grotte avec une nymphe, fût-elle une beauté prénommée Calypso. Lucie admirait la belle Nausicaa, la fille d'Alcinous, le roi des Phaéciens. Mais quelle idée, pour une princesse, d'aller avec ses servantes laver ses riches vêtements dans l'eau de la rivière. Ce n'est pas Paulette qui aurait accepté de descendre jusqu'à la mare pour y laver ses culottes petit bateau. Les 3 enfants étudièrent avec soin la saga des Cyclopes. On ruserait avec René aussi finement qu'Ulysse avec le géant Polyphème, dont le front s'ornait d'un œil unique et monumental. Agathe, sans avouer qu'elle repoussait depuis longtemps et avec un mépris non déguisé toutes les avances que lui faisait son camarade de classe, proposa de l'inviter à goûter à Beaucèdre, le jeudi suivant. René, ahuri par le sourire charmeur et inattendu dont elle le gratifia en formulant l'invitation, tomba dans le panneau et accepta avec enthousiasme. Le jour dit, à 3 heures précises, la sonnette tinta au petit portail et René apparut dans ses habits du dimanche, une culotte en serge marine un peu étriquée, « car j'ai beaucoup forci », expliqua-t-il en bredouillant devant l'œil critique d'Agathe. Mais le pull à jacquard tricoté par sa grand-mère, un luxe en ces temps de guerre, faisait beaucoup d'effet. Les enfants avaient préparé leur mise en scène dans le fond du jardin, à l'intérieur du poste à feu, reconverti en caverne du Cyclope pour l'occasion. Les rôles masculins furent vite distribués. Le grand René serait Polyphème. Lino s'était approprié d'autorité Ulysse. Il noua un foulard autour de la tête de René, comme pour une partie de Colin Maillard, et fixa au milieu du bandeau une balle de ping-pong, sur laquelle était peinte une horrible prunelle noire. Le garçonnet se prêta docilement à son déguisement, après avoir longuement admiré Agathe, vêtue d'une robe de maman, datant des années folles, en soie rose pâle, recouverte de minuscules perles grises et noires, parfaite pour incarner Circé, accessoirement gardeuse de cochons. Elle n'avait pas eu à aller bien loin pour en avoir l'idée. Le père élevait des cochons au fond du jardin, en cachette des autorités de Vichy et de concert avec son jardinier, Fernand. Diable, il fallait bien vivre et surtout manger. On avait construit à la va-vite une porcherie où fut intronisé un couple à la peau rose et aux soies dorues. Le mâle fut immolé à Noël. Il hurlait encore plus fort que Lucie le jour de son anniversaire et dûment partagé entre les 2 familles, celle du maître et celle du jardinier. Maman le servit avec parcimonie tout au long de l'année, mais on avait eu droit pour le déjeuner de fête du 25 décembre à du boudin noir, lardé de petits carrés de gras pâle, onctueux et fumant, servi aux 2 purées, pommes de terre et pommes tout court, spécialité de Paulette. Avant le sacrifice, le cochon avait poussé la gentillesse jusqu'à remplir son devoir de procréation. Agathe aurait pu en témoigner, qui avait assisté, avec beaucoup d'intérêt, aux ébats conjugaux. Malgré son veuvage récent, la truite mit bas 10 petits gorets. Aussi attendrissant qu'une portée de petits chats. Un spectacle dont les fillettes ne se lassaient pas. Les porcelets, serrés les uns contre les autres, biberonnant les multiples tétines de leur mère affalées dans la paille. L'odeur mélangée de purin et d'urine, fétide et pénétrante, ne pouvait les en distraire. Depuis le mois de janvier, les bébés cochons avaient grandi. Ils trottaient dans la porcherie, se précipitaient sur n'importe quel trognon de chou que leur présentait la petite et commençaient à se trouver bien à l'étroit dans leur bouge.
Pas plus que Polyphème,
René ne se doutait du plan machiavélique dont il allait être l'objet. Flatté de se voir attribuer la caverne, il reçut la visite d'Ulysse et de ses gens avec la férocité voulue. Pour l'amadouer, on lui servit 2 morceaux de pain d'épices bien secs censé représenter les 2 infortunés compagnons grecs, qu'il dévora goulûment. Après ce repas d'ogre, il dut feindre le sommeil, tandis qu'Ulysse préparait le pieu qui allait forer son œil. Pour imiter la braise, Lino avait peint en rouge le bout de la canne avec laquelle le père aimait se promener, avant la guerre, dans les montagnes suisses. Agathe se mit à déclamer d'un ton tragique le chant neuf de l'Odyssée. Les mots qu'elle prononçait étaient pour la plupart inconnus des enfants, mais ils n'en recelaient que plus de magie.
Quand le pieu d'olivier fut sur le point de s'enflammer, je le tirai du feu et courus l'apporter. Mes gens se tenaient près de moi, le ciel découplait notre audace. Soulevant le pieu d'olivier à la pointe acérée, ils l'enfoncèrent dans son œil. Moi, je pesais du haut et je tournais ainsi dans l'œil le pieu affûté à la flamme. Nous tournions et le sang coulait autour du bois brûlant. Partout grillait l'ardeur de la prunelle en feu.
Passant à l'acte, Lino creva d'un coup sec la balle de ping-pong qui gicla au pied de Polyphème. La bouche pleine de pain d'épices, René laissait passer les vers d'Homère par-dessus sa tête. Mais avant de plonger dans les ténèbres, il avait bien répété son rôle. Il demanda de pouvoir faire sortir ses brebis et ses chèvres de leur enclos, ainsi que l'avait réclamé le cyclope, aveuglé à jamais. Hélas, ni Fernand le jardinier, ni le père, n'avaient songé à élever des ovins à la barbe des sbires du maréchal Pétain. Mais il y avait les cochons. Mélangeant sans vergogne plusieurs péripéties du voyage d'Ulysse, Circé, alias Agathe, releva délicatement les coins de sa robe perlée et conduisit son souffre-douleur, les yeux toujours bandés, jusqu'à la porcherie. Ulysse ouvrit rapidement le battant et le poussa d'un grand coup dans le dos, dans l'antre de la truie. Adieu, culotte du dimanche, et puis la jacquard tricotée par la mémé. Ce fut un véritable carnage. 10 groins barbouillés de purin se déchaînèrent sur le pauvre garçon qui, ayant vivement arraché son bandeau, tentait de résister aux assauts des pourceaux. Les enfants durent le sortir de l'auge où baignait son derrière, sous peine de le voir massacré par la mère et ses petits, furieux de cette intrusion indésirable dans leur palais nauséabond. Le désastre était total et ne se limitait pas aux habits de fête de René, définitivement perdus. Car, profitant de la panique générale, 6 des 10 porcelets avaient pris la poudre d'escampette pour s'ébattre dans le jardin. L'un d'eux arriva en trombe dans les jambes de bonne maman qui faisait une petite promenade digestive dans la grande allée. Un autre fila jusqu'à l'étendage de Paulette et se frotta contre les draps en train de sécher. Un troisième fit irruption sous les roues de la bicyclette du père qui rentrait du bureau. Une heure plus tard, les 3 adultes tentaient encore de reprendre la situation en main, quand maman et la mère de René, qui venaient chercher son fils, se rencontrèrent sous la clochette du petit portail. La suite ne fut qu'une longue série d'admonestations et de punitions pour les enfants de Beaucèdre et de récriminations proférée par la mère offusquée du pauvre René. Agathe oublia vite la privation de ses desserts préférés. Après avoir été interdite de jardin pendant le même laps de temps, Lino reprit ses jeux autour de la mare et la mémé tricota un pull neuf pour son petit-fils. Mais ce dernier, depuis lors, et même lorsqu'il demanda la main d'Agathe, 10 ans plus tard, fut toujours appelé « pauvre René ». L'adjectif était tellement collé à son prénom, comme le purin et la paille à sa culotte en serge marine, qu'Agathe, bien qu'elle nourrit un temps un petit faible pour le jeune homme devenu dans l'intervalle assez beau garçon, ne put jamais aller au-delà d'un simple flirt. Quant à Lucie, qui n'avait joué que les figurantes durant le vif de l'action, elle n'était que la grande gagnante du cataclysme. Elle avait retrouvé les 3 porcelets manquants. Ils avaient élu domicile au milieu des acanthes. Tel le petit joueur de flûte de Hambourg, jouant de son instrument pour attirer les rats,
Elle les ramena docilement dans leurs épluchures en sifflotant.
Chapitre 9. Depuis le supplice du cyclope, c'est ainsi que fut nommé le drame vécu par pauvre René, les enfants avaient développé des liens affectifs très forts avec Lady Porcelet. Chacun d'entre eux avait eu droit à un prénom de circonstance. Agathe affectionnait Étendard, parce qu'il n'avait pas hésité à gravir la colline pour se réfugier dans l'étendage. Lucie avait une prédilection pour Acanthus, le petit rose pâle qu'elle avait délogé de sa cachette sous ses fleurs cierges et tendrement serrées sur son cœur. Lino préférait Portia, un bébé truie dont la panse était déjà couturée de microscopiques tétons. Comment pourrons-nous les oxyre pour survivre sans briser le cœur des petites? Se demandait le père qui connaissait l'importance du nom pour forger une identité forte et structurée. Maman, qui avait été promue responsable du ravitaillement depuis le début des restrictions, fut impitoyable. Nous ne leur demanderons pas leur avis. Dès la drôle de guerre, elle avait, comme la fourmi de la fable, accumulé des produits de première nécessité dans une pièce dont elle gardait la clé, dans la poche de sa jupe. L'armoire aux provisions occupait presque entièrement cette minuscule chambrette, au sommet de la villa. Y voisinaient quelques bouteilles d'huile, des kilos de sucre, des plaques de chocolat et des piles de savon en cube. Or, la proximité de ces deux derniers trésors, introuvables dans les magasins et rangés côte à côte dans l'armoire, avait engendré des produits hybrides assez particuliers. Les savons y avaient acquis un parfum de chocolat très subtil, et leur odeur persistante et mélangée de feuilles de laurier et d'huile d'olive avait imprégné à jamais le chocolat. Bien plus tard, Lucie ne pourrait déguster une de ces barres semi-cylindriques sans retrouver sous sa langue ce mélange imprévu, aussi évocateur que la petite Madeleine de Proust. Chaque fillette recevait, en rentrant de l'école, un morceau de pain et une barre de chocolat. Mais si le goûter était le même pour les deux, leur technique pour l'avaler était bien différente. Agathe, qui trouvait que le goût de savon masquait trop celui du chocolat, répartissait sur sa tartine la barre soigneusement découpée en petits morceaux et noyait chaque bouchée dans beaucoup d'eau. Lucie, au contraire, mastiquait d'abord tout son pain, puis elle laissait fondre le chocolat lentement dans sa bouche, humant le parfum de laurier et savourant, les yeux clos, le goût de l'huile rance. Il lui arrivait aussi, tandis qu'elle faisait sa toilette, de mâchouiller le cube de savon où avait été sculptée une petite abeille, pour faire revivre le délice précédent. Agathe surprenait alors un flot de bulles chocolatées sur les lèvres de sa sœur. « Mais tout cela ne fait pas un repas », se lamentait maman chaque matin, se demandant quel tour de passe-passe elle devrait encore inventer pour nourrir les siens. Elle avait d'abord commencé par sacrifier ses plates-bandes de zinnia pour y planter des topinambours. Hélas, les tubercules étaient aussi fades d'aspect que de goût. Le père, qui continuait à beaucoup voyager pour ses affaires, rapportait parfois des sacs en papier grossier remplis de biscuits. Là encore, les petites déchantèrent. Il s'agissait de vulgaires biscuits de chien. Et le père était bien le seul, la vieille Tobia exceptée, à se résigner à les broyer avec insistance tant ils étaient durs, même après avoir longuement trempé dans sa tasse de chicorée. Car on était au règne de l'ersatz. Chicorée pour remplacer le café, saccharine en guise de sucre et autres pâles imitations des produits d'avant-guerre, comme on les appelait dorénavant. Le père eut plus de succès avec ses grands pots de confiture de goyave, importés d'AOF, et qui avaient été débarqués, puis oubliés, puis retrouvés par miracle dans les docks du port de la ville. Agathe, dont les souvenirs étaient plus précis que ceux de sa petite sœur, rêvait d'une simple tartine de beurre. Maman, qui ne se résolvait toujours pas à s'adresser à Madame Boffa par la porte dérobée où se déroulaient toutes les transactions au marché noir, eut alors recours au troc, comme nombre de ses amis. Tôt le matin, elle prenait l'autobus avec les deux fillettes et écrémait l'arrière-pays de ferme en ferme. Écrémait, façon de parler, car la crème avait totalement disparu, mystérieusement évaporée de la surface du lait quand on en dénichait encore. Hélas, maman revenait souvent bredouille, ses propositions n'étant pas assez alléchantes pour les fermières devenues arrogantes. En désespoir de cause, elle puisa dans la garde-robe du père. Ce dernier possédait une collection de costumes en cheviotte, à fines rayures. Il les avait portés lors de mondanité, durant les années qui avaient précédé la guerre. Maman déballait ses merveilles sous les yeux écarquillés des paysannes. Ces dernières palpaient timidement le tissu léger et souple. Puis, le marchandage commençait. Mais la loi de l'offre et de la demande était la plus forte. Et maman n'obtenait en échange du veston sacrifié que quelques œufs et un bout de fromage, voire tout un saucisson. Maman avait l'esprit de classe. Tandis qu'elle attendait l'autobus du retour, elle ne pouvait s'empêcher de marmonner « Quand je pense que ce costume va finir sur le dos d'un cutéreux !» Il fut un aliment auquel maman ne pensa jamais, pour le plus grand bénéfice de Lino. Quand les restrictions se firent encore plus sévères, il se mit à pêcher les grenouilles pour son compte, ou plutôt pour celui de sa grand-mère. Cette dernière commença par les apprêter, avec force gousse d'ail, pour sa propre famille. Mais devant les prises miraculeuses que réalisait son petit-fils et son adresse à découper les cuisses des batraciens de beau cèdre, elle succomba, elle aussi, aux tentations du marché noir. Lorsque maman descendait au bas de la colline et qu'elle passait devant le petit restaurant qui annonçait fièrement sur son ardoise « cuisses de grenouille à la provençale », au lieu des sempiternelles soupes de pois et gratins de topinambour, elle ne se doutait guère que ce mets de choix avait été pêché dans sa mare pleine de vases. Et quand les petites s'endormaient en écoutant le coassement familier qui brisait la monotonie de la nuit, elles étaient loin d'imaginer que Lino, lorsqu'il pataugeait au milieu des têtards, participait, lui aussi à sa manière, à la lutte pour la survie.
Chapitre 10.
L'hiver qui suivit fut l'un des plus rigoureux du siècle. Il neigea d'abondance, un événement rare pour la région. Le jardin avait l'air endormi sous des kilos de sucre en poudre. Les grenouilles s'étaient tues. Paulette et maman se relayaient pour alimenter le petit poêle à bois qui brûlait dans chaque chambre. Avant de s'endormir, on vérifiait qu'il ne restait plus que quelques tisons rougeoyants. Le matin, les petites se réveillaient transies, dans l'odeur des bûches froides. Peu avant Noël, en classe, elles durent écrire une lettre au maréchal et lui envoyer des vœux. La réponse, ornée du portrait du chef de l'État de Vichy et renéotée à quelques millions d'exemplaires, fut distribuée dans les écoles à chaque enfant de France. Elle était truffée de patriotiques exhortations à bien travailler. À la grande détresse de ses filles, le père plia en quatre la missive officielle, la déchira et posa dans son assiette les confettis de papier. Puis, curieusement, car il s'intéressait habituellement fort peu aux autres enfants que les siens, il demanda à Agathe des nouvelles de ses deux meilleures amies de classe, Rachel et Sarah. La première était la confidente, l'amie de cœur, aussi passionnée que Agathe était pondérée. Elles s'enfermaient toutes les deux pour des conversations interminables dans la chambre à coucher. Elles en bannissaient l'entrée à Lucie, qui brûlait de jalousie derrière la porte fermée. Les sentiments d'Agathe pour Sarah étaient beaucoup plus lâches. Dans sa grande magnanimité, elle tolérait que Sarah, moins rapide et moins douée, copie en douce ses calculs ou ses réponses lors des compositions. Elle acceptait toujours avec condescendance les offrandes que Sarah lui offrait en retour, de petits biscuits aux raisins préparés par sa tante. Elle daignait enfin jouer avec elle lorsque Rachel, dont la santé était fragile, était absente. Mais que revint l'amie préférée, et Sarah n'existe plus. Le malheur partagé finit par rapprocher. À force d'être y conduite, Lucie et Sarah étaient devenues amies. Les deux laissées pour compte passaient de longues heures ensemble à jouer aux cartes en grignotant les biscuits aux raisins. Au premier signe du printemps, maman et la petite retournèrent chez l'oculiste. Lucie prit à nouveau place sur le fauteuil en moleskine et maman reprit la sienne dans la chaise à bascule. Les jambes de Lucie s'étaient allongées, mais elles étaient toujours très éloignées du sol. Inconsciemment, elle les replia fermement sous le siège, s'appliquant à ne pas effleurer la blouse du médecin. Mais alors qu'il plongeait sa lampe chercheuse dans ses pupilles, Lucie sut que son regard partait, loin derrière elle, dans l'imposant miroir au cadre doré, pour se rassasier du nouveau visage de maman. Les privations avaient pâli et creusé ses joues, et l'usure de la glace ancienne estompait ses traits et leur donnait une allure mystérieuse. Les crans et les ondulations avaient fait place à un savant rouleau en dedans qui revenait sur les oreilles comme une coquille d'escargot. Un turban de satin marine était fixé au sommet de la tête par un gros nœud plat. Guerre ou pas, maman se targuait de suivre la mode à la lettre. Fashion victime avant l'heure. Lucie lisait maintenant couramment et exécuta tous les tests avec docilité. De loin, de près, elle ne se trompa pas une fois. Même lorsqu'il lui fallut déchiffrer les caractères les plus minuscules. Le petit lézard vert court sur le mur ensoleillé. Le bon œil faisait son devoir et plus que son devoir, ce qui rasséréna vivement maman. Mais le pronostic concernant le mauvais fut confirmé. Le nerf optique est atrophié. En l'état de la science, on ne peut rien faire. Maman sortit alors de son sac les dessins de Lucie qui avaient tant intrigué le père. « Étrange, très étrange, » répéta l'oculiste en observant attentivement les centaines de tiges velues et les pyramides striées de filaments ocre. Mais il se garda d'exprimer à haute voix ce qu'il croyait lire dans ses formes répétitives. La petite osa lui demander « Agathe, elle dit que je suis antilope et que j'ai un trabique concluant. C'est quoi ?» La réponse du médecin des yeux détruisit ses dernières illusions. Certes, le terme « monophtalme » était plus noble que le mot révélé par la cruauté de René. Mais borgne elle était, borgne elle resterait. Les mains bien agrippées au fauteuil bleu, elle contint cette seconde vague de désespoir. Et, comme elle avait précieusement enfermé dans le tiroir du bonheur le véritable prénom de Lina, elle cloîtrerait dans celui du malheur les vocables amblyope et strabisme. Preuves irréfutables de son infirmité.